en face d'elle dans le salon, sur le port, au café du dimanche matin. Le gamin qu'elle avait soigné à la colonie pénitentiaire était devenu l'homme qui avait mis son frère en lambeaux. Chaque fois que je dînais à sa table, je sentais son regard posé sur ma main, celle qui tenait le couteau. Ancho, lui, avait perdu le goût de vivre. Au moment de trinquer, il levait son verre avec tristesse et goûtait à peine la côtriade grasse. À bord, il boudait la remonte des filets. Il ramait sans cœur. À terre, il nous évitait. Même moi, qu'il appelait affectueusement le brigand. Un jour, en rentrant du port, Ronan lui avait soufflé « Tu fais chier, le basque !» Le patron était triste pour lui, pour nous tous. Depuis presque un an, l'équipage vivait avec lui les heures sombres de son pays. Un matin de juillet 1936, il avait embarqué avec sa colère. C'était la première fois qu'il montait à bord sans sourire ni nous serrer la main. Des militaires espagnols s'étaient mutinés au Maroc. Ils disaient que cela ne s'arrêterait pas là. Et il avait raison. Lorsque les premières casernes se sont soulevées contre le Frente Popular, le Basque nous a pris à part. « Vous ne pensez qu'à la sardine. » Ronan lui avait rappelé que notre vie dépendait de ce travail. « Mais je me fous de votre travail !» avait grimacé Pancho. Au foulard rouge d'Alain, le Basque répondait par un foulard noir. Il était anarchiste. « Libertaire, disait-il. » Il avait acheté une vieille TSF Manufrance à Quiberon, l'avait réparée et programmée sur les ondes courtes pour capter la radio officielle du gouvernement républicain. Chaque soir à 21h20, il s'installait devant le poste et cherchait la voie de Madrid sur 30,43 mètres. Et chaque matin, en embarquant, il était plus défait que la veille. Mais ce 29 avril 1937... le Basque était resté prostré sur le banc de nage. Il avait pleuré. Son visage était blanc, d'une nuit sans sommeil. Et c'était moi qui avais descendu la rame. Trois jours plus tôt, des avions hitlériens et fascistes avaient détruit une ville de son pays. C'était un lieu sans importance stratégique. Selon la radio loyaliste, les bombardiers allemands et les chasseurs italiens avaient eu l'ordre de terroriser la population. Pancho ne comprenait pas comment un homme avait pu lâcher ses bombes sur des enfants. C'était la première fois que je l'entendais cracher le nom de Franco. Cracher vraiment, par-dessus bord, avec sa cigarette éteinte. Sur le port, avant de monter à bord, Alain nous avait discrètement montré la première page de l'Humanité. Le numéro était daté de la veille. 1000 bombes incendiaires réduisent en cendres la ville de Guernica. Pauvre gars, ça va l'achever, avait grogné Alain. Et moi je dis qu'on va le perdre, a ajouté le patron. C'est la première fois que nous nous sommes assis aux frères. À part le jour où nous avions rencontré le poète, jamais l'équipage n'avait pris place à table. Notre territoire, c'était l'angle du bar, sous le narguilé en verre bleu rapporté du nord de l'Afrique. Sans un mot, Gotias nous a apporté une bouteille de lambic et quatre petits verres pour la faire durer. « Je t'écoute, Pancho. » Son regard clair, sa voix tranquille. En mer, sur terre, Ronan était le patron. Le Basque a ouvert les bras. « Tu veux entendre quoi ?»« Ce que tu as à me dire. » Il a bu son verre d'un trait. « Ce qu'il avait à dire. » « Merci. » Merci à Ronan, à Alain, aux braves gens qui l'avaient accueilli comme l'un des leurs. Merci à Sophie, qui lui avait laissé l'appartement de pêcheur d'un oncle disparu en mer. Une grande pièce sans rez-de-chaussée, un coin cuisine, une chambrette avec un lit clos. Merci à la chaloupe de l'avoir accueilli et à la mère de l'avoir épargné. Merci pour ces 10 ans passés à Sauzon. Merci aussi à moi, le petit brigand, pour avoir supporté ses sautes d'humeur.